Les éditions de l'avenir présentent Une soirée tranquille de Hugues Morin. C'était le 29 novembre, un jeudi. Froid et pluvieux comme seule la côte ouest semble en être capable. Je venais de quitter l'amour de ma vie, pas définitivement bien sûr, elle venait de retourner au travail après sa pause, et ma montre avait sonné 20 heures quelques minutes plus tôt. Au lieu de retourner à la maison et ne rien faire du reste de la soirée, j'ai opté pour demeurer dans le downtown et ne rien faire du reste de la soirée. Le Chapters sur Robson Street demeure ouvert jusqu'à 22 heures et je me suis dit que l'endroit était parfait pour tuer 2 heures en attendant la fin du quart de travail de ma belle. Je me suis d'abord perdu dans quelques rayons du rez-de-chaussée, feuilletant un livre ça et là, avant qu'une table consacrée à l'humour n'attire mon attention. J'ai dû y passer une dizaine de minutes et c'est à cette table que j'ai vu le gars pour la première et unique fois de la soirée. Je n'avais aucune idée de son identité à ce moment-là, et sur le coup, je l'ai à peine remarqué. Il s'agissait d'un client parmi tant d'autres, je dirais, et j'étais dans un état d'esprit renfermé. Je passais seulement une soirée tranquille. Ce gars-là a pourtant brièvement attiré mon attention lorsqu'un employé est venu le prévenir de cesser de corner les pages des livres qu'il consultait à la table d'humour. En termes d'humour, les livres proposés relevaient pratiquement tous du graphique. Recueil de strips, inévitable livre de caricatures politiques de fin d'année, The Best of Garfield, ce genre de trucs. Novembre et décembre semblent depuis de nombreuses années les mois consacrés aux best-of de toutes sortes. Les héros de bande dessinée n'y échappent visiblement pas. Quoi qu'il en soit, j'ai à peine jeté un regard sur le type, notant du coin de l'œil qu'il portait des espadrilles orange fluo. Rien pour demeurer discret dans une librairie. Malencontreusement, j'ai dû feuilleter un livre qu'il avait lui-même consulté un peu avant, à cette même table. Adoptant un profil bas, je me suis éclipsé de cette section pour aller me perdre dans les biographies au second plancher. J'appréciais de plus en plus pouvoir passer des soirées tranquilles comme celle-là. D'aucuns préfèrent le cinéma, mais pour quelqu'un comme moi, la proximité pose trop de problèmes et j'ai de la difficulté à me concentrer sur le film. Je vois donc presque tous mes films en salle dès lundi soir, en fin de soirée. Une nouvelle biographie de JFK venait de sortir. Ce devait bien être la 100e. Je me souvenais en avoir moi-même lu une bonne vingtaine à une certaine époque. Jack Kennedy côtoyait Stephen King sur les étagères, un des récents bouquins de ce dernier ayant été considéré comme autobiographique par le personnel responsable du classement de Chapters. 3 ados se dirigeaient vers ma section, ce qui m'a fait remarquer à quel point la clientèle se faisait rare à ce moment. Je me glissais donc vers les escaliers mobiles et les fictions du 3e plancher en quête d'une relative solitude. Ce qui est bien avec ce genre de librairie à grande surface, c'est qu'ils permettent aux clients de bouquiner, de s'asseoir, de lire des passages des ouvrages, bref, c'est l'endroit idéal où personne ne semble réellement préoccupé ou trop accroché à ses propres pensées. Chacun se perdant plutôt dans les pensées passées d'un auteur. J'ai ramassé une anthologie de littérature policière et je me suis installé dans un des fauteuils près des fenêtres avec vue sur Howe Street. En bas, Robson Square brillait de 1000 feux multicolores, déjà illuminés pour la période des fêtes. L'intérieur du Chapters n'avait pas encore sombré dans les décorations de Noël. Pas plus d'ailleurs que sa musique d'ambiance n'était tout à coup devenue traditionnelle. En réalité, je n'aurais pu dire quelle musique jouait, tant le volume était tenu à bon niveau. Une autre bonne raison d'avoir choisi cet endroit pour une soirée tranquille. Quelques mètres derrière moi, un type d'une 20aine d'années, qui a pris la peine de retirer sa veste, avait de la difficulté à se concentrer sur l'énorme volume de Tolkien qu'il feuilletait. J'ai formulé le souhait secret qu'il succombe rapidement à la magie du maître et cesse de gigoter sur sa chaise et perturber ma concentration. Je me suis demandé comment se sentirait Tolkien si s'il pouvait voir les deux murs entiers désormais consacrés à son œuvre dans la plus vaste librairie de la ville. Je ne doutais pas qu'il devait en être ainsi, pas seulement à Vancouver, mais également partout en Amérique ces jours-ci. D'aucuns pourraient dire que les trois quarts de ces murs étaient en fait consacrés à l'adaptation cinématographique de l'œuvre, mais j'ai rapidement mis fin à ce débat intérieur en ouvrant mon anthologie. La musique s'était tue depuis quelques minutes lorsque j'ai pris note de la chose. Le seul bruit audible de l'endroit où j'étais demeurait donc la ventilation. Je me suis perdu un temps dans l'introduction de mon livre et en ai été tiré par des cris. En réalité, il ne s'agissait pas de cris, mais plutôt de deux personnes qui avaient considérablement haussé le ton. Deux hommes à en juger par le timbre des voix. J'ai soupiré et consulté ma montre qui indiquait 21h05. Quelques clients se sont mis à chuchoter près de moi et j'ai réalisé en me retournant vers eux que 5 des 6 fauteuils alignés près de la fenêtre étaient maintenant occupés. Que je n'ai même pas remarqué la chose m'a étonné, mais c'était une indication de plus comme quoi je passais une soirée tranquille, me préoccupant peu des gens autour de moi. Ces soirées sont si rares maintenant que j'ai tendance à les considérer comme parmi les plus précieuses de ma vie. Si je fais exception de celle passée en tête-à-tête avec Laurie, bien entendu. D'ailleurs, celle-ci est très bien placée pour me comprendre et ce soir-là, elle ne passait pas réellement une soirée tranquille et a pris connaissance des événements à peu près au même moment que moi. Du 3e étage, nous entendions les deux voix masculines et nul n'avait besoin de dons particuliers pour saisir l'agressivité du ton employé de part et d'autre. L'inquiétude se lisait sur certains visages, mais j'ai aussi discerné de l'amusement de la part d'un ado qui croyait évidemment qu'il avait tout vu et qu'il était à l'abri de tout. Toujours est-il que le coup de feu a retenti à peine quelques secondes après qu'on ait entendu un grand cri de douleur. Les auteurs de polar décrivent parfois les coups de feu comme des bruits de pneus éclatés ou de bouchons de champagne qui sautent. Ce ne sont pas de mauvaises comparaisons et j'imagine que le tout dépend aussi du type d'arme utilisée. Mais ce 29 novembre, à 21h08, dans le Chapters du Downtown de Vancouver, personne parmi les clients fouinant dans les étagères n'a réalisé qu'il s'agissait d'un coup de feu. Personne n'y a songé un seul instant, en fait. Ce qui est tout à fait normal. Car, pour un citoyen ordinaire, un bruit comme celui-là peut s'expliquer de bien des façons, spécialement dans une grande ville, avant d'envisager qu'il s'agisse de quelque chose d'aussi dramatique qu'un coup de feu. Personne n'y a donc pensé. Personne, sauf moi. Et je n'y ai pas réellement songé, évidemment. Je n'ai pas eu à y songer puisque j'ai vu le coup partir. Ça doit être un de ces satanés livres sur la table d'humour du rez-de-chaussée. Le best de Garfield, peut-être bien. Il était probablement encore trop chaud lorsque je l'ai feuilleté. Ce sont des choses qui arrivent, mais habituellement, personne ne déclenche une bataille peu après pour finir par tirer sur quelqu'un d'autre. C'était le gars des pages écornées. Après la détonation, quelques hurlements aigus se sont fait entendre. Des femmes, cette fois-ci. Puis, un sentiment d'énervement, en provenance du rez-de-chaussée, s'est fait sentir jusqu'au 3e. Ainsi, alors que les quelques curieux des étages s'avançaient prudemment vers les escaliers mobiles pour voir d'où provenait cette agitation, je me suis rassis dans mon fauteuil. Ce n'est pas tous les jours que je peux profiter d'une soirée tranquille, et j'avais décidé que celle-ci était pour moi. Bon, d'accord, j'avais vu la scène. Pas comme un film, mais c'était tout comme. J'avais plutôt, disons, ressenti la scène. Il s'agit toujours plus d'émotions et d'informations que d'images. Mon gars aux espadrilles oranges avait eu un argument avec le préposé à la sécurité. Un autre employé avait voulu s'en mêler et en avait été quitte pour un coup de poignard au niveau du bras gauche. Douleur, étonnement et incrédulité, d'où le cri. Avant le coup de feu tiré en direction du garde de la sécurité. Le type aux espadrilles plus haut avait tiré le premier bêtement. Bêtement, car ce sont toujours des choses bêtes comme celle-là qui se produisent lorsque vous trimballez une arme à feu pour tout et rien. Le préposé à la sécurité n'allait pourtant sortir qu'un téléphone cellulaire de sa poche. Je ne pense pas que ces agents aient des armes à feu de toute manière, même pour un grand magasin dans une métropole. Il voulait appeler la police, mais il n'a jamais eu le temps de le faire. C'est un client qui l'a fait à sa place, sur son propre portatif, quelques minutes plus tard, mais pour des raisons plus urgentes. Mon gars, au page corné, s'est enfui, et l'agitation s'est emparée de tous au rez-de-chaussée du Chapters, si calme, 5 minutes auparavant. Heureusement pour moi, cette agitation se déroulait 2 étages plus bas, et je me suis retrouvé seul dans les fauteuils de la section fiction. J'ai donc repris ma lecture de l'anthologie policière. Qu'aurais-je pu faire d'autre de toute façon? La police allait fermer l'endroit le temps d'interroger les témoins, alors il me faudrait attendre mon tour d'une manière ou d'une autre. Je me suis demandé comment un auteur de polar appellerait les témoins du troisième plancher. Des témoins auditifs, peut-être bien. La question demeurait théorique, mais me fournissait une raison de me replonger dans mon livre. Au moment de leur arrivée, les policiers ne savaient pas encore que le préposé à la sécurité avait été atteint mortellement en pleine poitrine, par un subtil projectile. Mince consolation, on pourrait toujours se dire que l'homme était mort le même jour que George Harrison, dont le décès avait commencé à faire les manchettes en début de soirée. Une page d'histoire se tournait ce jour-là, et la petite histoire rejoignait la grande histoire, comme ces choses-là se passent tout le temps sans que personne ne s'en rende réellement compte. Pour ma part, je m'en suis donc tenu à mon idée initiale et j'ai passé le reste de la soirée à lire en face de Robson Square. Jusqu'à la fermeture officielle du Chapters, puisque officieusement, les policiers avaient bel et bien fermé les portes en prenant charge du lieu du crime. L'ironie de ma lecture d'un livre de polar sur les lieux d'un crime ne m'a pas échappé, mais j'ai lu tant de choses plus curieuses par le passé que j'ai simplement classé l'observation dans mon tiroir des coïncidences étranges. Peu avant 22h, donc, j'ai eu un bref entretien avec les policiers qui ont pris note de mon ignorance des faits et de mon emploi du temps au troisième étage avant de quitter le Chapters. J'ai joint Laurie, coin Granville, à la fin de son quart de travail. Nous sommes retournés à la maison. Il pleuvait toujours et nous savions que nous en aurions pour des jours comme ça, mais comme pour le reste, on s'habitue à la pluie constante et à l'absence de neige en hiver. Sur le chemin du retour, Laurie me raconta sa perception des événements. Le préposé à la sécurité du Chapters nous avait précédés dans le fil d'attente du restaurant où nous avions été prendre une bouchée pendant la pause de Laurie. Le papier-monnaie obtenu en échange du billet de 20$ avec lequel elle avait payé notre repas devait être encore chaud lorsqu'elle l'avait pris et glissé dans son portefeuille. Elle avait eu une assez bonne vision du gars aux espadrilles plus haut, contrairement à moi, qui n'avait remarqué que ce détail. Sa soirée n'avait pas été aussi tranquille que la mienne, puisque l'affaire l'avait préoccupée jusqu'à la fin de son quart. Après une brève discussion, nous avons convenu de passer un appel anonyme le lendemain matin d'une cabine publique. Les policiers reçoivent des informations anonymes à tous les jours. Nous savions tous les deux qu'en faisant un petit effort, j'arriverais facilement à voir le nom de ce gars qui, le soir du 29 novembre, portait des espadrilles oranges. Elle comprenait très bien ma réticence à m'être impliqué sur place. Elle connaissait mieux que quiconque le genre de problème que ça soulevait, notamment les explications qui étaient impossibles à fournir. Et elle savait que j'aimais particulièrement mes soirées tranquilles. Bien des gens nous trouvent étranges et nous avons quitté notre ville natale pour vivre ensemble, loin des regards. Mais ce n'est pas pour rien que nous partageons notre vie. Car, contrairement à ceux qui nous ont jugés, nous savons que nous nous aimons. Histoire écrite le 30 novembre 2001, 20h30, 21h50, Chapters Robson Square, Vancouver, BC. Revue et corrigée le 15 décembre 2001, 19h à 19h55, en écoutant Liberame de Hildyard Glodenthal et Now We Are Free de Hans Zimmer, qui en ont inspiré la version finale. Cette histoire a été publiée en tirage privé en décembre 2001. Certaines parties de cette histoire ont été reprises subséquemment dans la nouvelle intitulée « La petite brune aux yeux verts », publiée en 2011 dans le numéro 180 de la revue Solaris. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté « Une soirée tranquille » de Hugues Morin, lu par Christian Martin. L'histoire et les personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement est diffusé sous contrat Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives et est une production 2012 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.